Salut les joueuses, salut les joueurs, nous sommes en juin 2023 et vous écoutez Proxy Jeux, le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Ephiriel et pour cette nouvelle émission des Jeux du Mois, vous avez la chance, le plaisir et le privilège d'écouter les meilleures personnes de Proxy Jeux, élues à l'unanimité après un sondage auprès de 10 êtres vivants, dont 4 chats, 4 chiens et bien entendu la deuxième personne qui portera toute la formidable présence de Proxy Jeux avec elle, ma compagne. Il s'agit bien de Paul Gara. Bonjour Paul Gara.
Salut Ephiriel. Alors qui sont les deux autres êtres vivants
C'est toi et moi, bien sûr.
Ah d'accord. Donc ceci explique cela.
Ah bah oui, on va pas se priver.
Non.
On va commencer donc par remercier nos donateurs et nos donatrices.
Alors nous remercions Dr Cheux, Crash305, Lapinesco, Nico Como, Lacariatre, B1, Fred Moulis, Yann Le Proto, Grovast, Tespios et Yann Loïc.
Nous remercions notre partenaire, la Caverne du Gobelin, qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont 4 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Peu de commentaires pour, je crois, l'émission dernière.
Oui, donc le mois dernier, c'était Cyrus et Flavien qui nous parlaient de kites et de trio. Et oui, il y a eu 3 commentaires. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu les ponts du mois de mai qui ont joué et que les gens étaient occupés et n'avaient pas le temps de mettre des commentaires. Alors, parmi les commentaires, on en a eu un de Mathieu Despneux.
Oh.
Tiens, ouais. Qui était très content que le jeu trio ait plu autant et à Cyrus et à Flavien. Et donc, il les remercie notamment d'avoir souligné le travail de développement, puisque la version en équipe n'existait pas dans le jeu initial, puisque Trio est en fait une déclinaison d'un jeu japonais qui s'appelle Nana. Mmh. Et donc, cette version par équipe n'existait pas. Et donc, Cyrus et Flavien sont revenus sur le travail qui avait été fait par Cocktail Games pour enrichir le jeu d'origine.
Franchement, super travail, parce que, à mon sens, le jeu n'a de plaisir qu'en équipe. Oui. Franchement, une fois que t'as joué en équipe, t'as pas envie de jouer seul, autrement en fait, je trouve que le jeu il est vraiment ouf.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, une fois que t'as goûté au plaisir du jeu en équipe, surtout en équipe, quand tu fais par 3 équipes de 2,
ouais.
Je trouve que c'est très difficile, le jeu d'origine est moins plaisant, et si tu te souviens bien, on y avait joué à Vichy dans cette configuration, et notre tour à ce moment-là, c'était dit, mais qu'on avait du mal à voir comment le jeu pouvait aussi bien fonctionner que dans cette configuration, et effectivement, ça, c'est ce que tout le monde confirme après y avoir joué.
Hein. Ouais, clairement, j'avais rejoué pas par équipe justement, et j'étais en mode, ok c'est cool, mais en vrai, si vous n'avez pas goûté le jeu en équipe, faut le faire quoi, c'est vraiment ouf.
Ouais, ça relève vraiment le plaisir de jeu. On avait également Game Tracker qui faisait un petit clin d'œil à Mathieu Despneux justement en disant que si Trio avait l'As d'or, il pourrait faire la même déclaration que Michael Lonsdale lorsqu'il avait eu un César pour un second rôle à 82 ans. Alors il met le lien de la vidéo, et donc pour mémoire, je suis allé revérifier. Donc Michael Lonsdale disait « Te voilà enfin petit coquin » en s'adressant au César et en disant « Mieux vaut tard que jamais ». Voilà. Et puis enfin, on avait Gerny Lolo qui nous laisse toujours un commentaire et qui donc leur avait dit « Salut les brelans volants ». C'est très mignon. Et il disait « Est-ce qu'on va autant vouloir rejouer à Kites qu'à Trio ?» Point d'interrogation. « Pas sûr, on en fait peut-être plus vite le tour. » Eh ben écoute, moi je suis pas d'accord.
Complètement pas d'accord.
J'ai vu beaucoup de personnes faire ce retour en disant « Kites, une fois qu'on a gagné, on s'en lasse, un peu comme The Mind. » Tout autant The Mind que Kites, ce sont des jeux auxquels je trouve qu'on rejoue toujours avec plaisir, que ce soit avec les mêmes joueuses ou avec de nouvelles joueuses. Enfin, moi, c'est vraiment un jeu qui ressort très très régulièrement à la maison, Kites.
Bah ouais, je suis d'accord. Enfin, moi, j'ai rejoué mardi dernier, donc je peux pas dire le contraire. Ce sont les personnes autour de la table qui font le jeu. Mais c'est toujours plaisant, en fait, Enfin, je dis ça parce que mardi, on a joué à 3. Dont une personne qui n'avait pas joué, et on s'est dit ça a l'air simple, on va vite torcher le jeu, et en vrai non,
pas du tout.
Pas du tout. Donc c'est Kite, c'est une... moi j'avais pas aimé du tout à la base, mais c'est une petite pépite au final, c'est super agréable.
Bah moi, quand j'y avais joué avec toi et le reste de la Proxy Team à Essen, j'avais été assez bluffée parce que sur le papier, le jeu ne me plaisait pas du tout. Et j'avais eu des sensations très très fortes en y jouant. Et chaque partie, j'arrive à retrouver ces sensations. Donc ça, je trouve ça assez fort. Ouais. Quoi. Donc pour moi, c'est une très grande réussite également, Guys.
Et c'est tout pour les commentaires du mois. Enfin, pour des commentaires des jeux du mois, du dernier jeu du mois. Vous m'avez compris, bien sûr, chez vous. On va passer au cœur de l'émission. Donc deux jeux qu'on va vous présenter qui sont des jeux à deux, des jeux duo. On dit jeu duo.
Oui, on peut dire ça.
Je vais lancer ma partie avec un premier jeu, Mindbug. C'est magnifique. Donc, les auteurs de Mindbug, Christian Koudal, Skaf Elias, Marvin Hagen, qui sont trois auteurs qui n'ont fait que ça. Ce sont leurs premiers jeux, c'est leur première participation au monde ludique, selon BGG, et bien sûr Richard Garfield, qui amène un peu, je pense, le sel de tout ça. Je serais vraiment ultra curieux de pouvoir interviewer l'un des quatre, enfin au moins discuter avec lui pour comprendre de qui ça vient vraiment et de comment se sont réparties les idées de tout ça, parce que je pense qu'on attribue beaucoup de choses à Richard Garfield, mais en vrai, quand t'es quatre sur le projet, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas forcément de la même personne, même si on peut lui attribuer beaucoup de choses à côté. En termes d'illustrateur, on a Denis Martinet, qu'on avait retrouvé notamment sur Ratus, et le Roll and Ride de Imperial Settlers. Le tout est édité chez Nerdlab Games à la base et localisé par Yellow pour la version française et distribué par Yellow en France. On a une note aujourd'hui de 7,8 sur BGG avec 3200 votes, ce qui est plutôt respectable, dirons-nous. Le jeu de base était un financement participatif, parce que c'est... Enfin, moi, j'avais
tu
eu en fait la version... Non, j'avais pas participé au financement participatif, mais j'avais acheté les versions supplémentaires, tu sais, qu'ils vendaient, les surventes, je veux dire, du KS.
Le rap du KS.
Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je l'avais préco, genre en août dernier. Et je l'ai reçu ultra tard, parce que je crois que je l'ai reçu en décembre ou un truc comme ça. Ça avait été une attente tellement longue. Et entre les deux, il y avait eu Essen. Et ils vendaient des boîtes de base à Essen. Et du coup, j'avais pas acheté la boîte de base parce que j'attendais ma fréco. J'étais un peu deg. Mais bon, j'ai une belle boîte du coup avec les tapis de jeu qui sont magnifiques. Et ça me fait toujours plaisir, surtout sur un jeu comme celui-ci. Alors, on y a joué tous les deux, ensemble. Je crois que c'est même moi qui t'avais fait découvrir le jeu, si j'ai pas corrigé.
Oui, on a fait... la première partie que j'ai faite, c'était avec toi, effectivement. Après, je l'ai acheté pour ma part, j'en ai fait d'autres, et on y a rejoué ensemble il y a pas beaucoup de temps.
Ouais.
Et tu m'as écrasé, lamentablement.
C'est pas vrai. Le principe du jeu, donc, c'est un jeu d'affrontement à deux joueurs. Comme on l'a dit, on est sur deux jeux en deux joueurs. Donc, on a un deck de 48 cartes dans lesquelles il y a des créatures qui ont toutes des pouvoirs ultra pétés. Et quand je dis ultra pété, c'est vraiment ça. Si on l'a dit, on se dit wow, « ça a l'air fort ». En fait, toutes les cartes sont comme ça. Le but étant de réduire les PV de l'adversaire à zéro. On a chacun 3 PV au début de partie. Et boum, c'était que dès que l'un adversaire atteint 0, c'est fini. Il y a une deuxième condition de victoire, je vais y revenir, mais enfin, grosso modo, c'est si l'adversaire ne peut pas faire d'action, il arrête, tout simplement. Le jeu s'arrête et il a perdu.
Il capitule.
Exactement. Dans les grandes lignes du jeu, donc, il y a 48 cartes créatures. Au début du jeu, on va distribuer 10 cartes à chaque adversaire. Ça va être son deck de jeu. Donc il y a 28 cartes qui passent à la trappe, hein, qu'on ne verra jamais, donc il y a un effet déjà hasardeux là-dessus qui est assez fort, et sur les 10 cartes, on va en piocher 5 pour faire notre main. Et chaque tour de jeu, on a deux actions possibles, soit on pose une carte de notre main sur le plateau de jeu devant nous, comme on poserait une créature à Magic. La relation à Magic va être nécessaire et récurrente, hein, évidemment. Soit on la pose, soit on doit attaquer avec une de nos créatures l'adversaire. Poser une carte ne coûte rien, il n'y a pas de mana, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de rien du tout, c'est gratuit, on la pose, c'est fini. Et comme je disais, si on attaque l'adversaire et que l'adversaire perd son troisième point de vie ou qu'il ne peut plus faire d'action à son tour, le jeu se termine. Chaque créature, une fois qu'elle attaque et qu'il n'est pas bloqué par une autre créature adverse, n'inflige qu'un point de vie, quelle que soit sa force. La créature, elle est assez simple. En gros, il y a une valeur sur la créature, en haut à droite, qui représente sa force, sa défense, enfin sa défense dans le sens ses points de vie, et elle a un texte qui va donner un pouvoir qui va être de différents effets. Il y a des pouvoirs de base qui donnent des types de créatures, des créatures type poison, des créatures type furie, des créatures type furtive, et ainsi de suite, qui ont tout un effet très particulier, qui les rendent déjà assez forts en soi. Et il y a un deuxième effet sur certaines cartes qui est, lorsque vous jouez cette créature, faites ça. Lorsque la créature est détruite, faites ça. Lorsque la créature attaque, faites ça. Et ces mots-clés aussi sont très importants parce que parfois, ça va comboter avec d'autres choses. Et c'est là où le sel du jeu commence déjà un tout petit peu à prendre. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas le gros sel du jeu. Ce n'est pas ce qui fait la différence avec n'importe quelle carte type Clash of Deck ou ce genre de choses qui sont quand même un peu basiques. Sur ce type de jeu, si on avait que ça, ce serait un peu vraiment la même chose. Là, le gros sel de Mindbug, et franchement, c'est ce qui fait que le jeu, il est fantastique. Sans ça, il serait juste vraiment classique, j'insiste dessus. C'est ce qu'on appelle le Mindbug. Le Mindbug, ce sont deux cartes que les adversaires ont au début de la partie, qui s'appellent Mindbug. Et en fait, à chaque fois qu'un adversaire pose une carte, donc il joue une carte de sa main pour mettre une créature devant soi, il va, dans un premier temps, repiocher pour revenir à 5 cartes, c'est assez important pour la suite, parce que certains effets ont des effets de défausse et ainsi de suite, donc il doit avoir 5 cartes en main pour défausser. Et l'adversaire peut, s'il souhaite, donc je pose ma carte, imaginons qu'on joue avec Polgar, je vais faire un truc plus simple, je pose une créature devant moi, je repioche pour arriver à 5 cartes, et je demande à Polgar, est-ce que cette créature lui convient, est-ce qu'elle veut la mindbugger? Et donc, Polgara, toi, tu as tes cartes de Mindbug devant toi, et si la créature que je pose te plaît, ou tu la trouves trop dangereuse pour qu'elle soit de mon côté de la table, tu peux retourner une de tes cartes Mindbug et la prendre pour toi. Et c'est une créature, du coup, que tu auras sur ton plateau de jeu, qui n'est plus à moi du tout. Et tu fais tous ces effets, si c'est un effet joué, c'est-à-dire gagner 2 points de vie ou ce genre de choses, en fait, c'est toi qui vas le faire. Donc en fait, j'offre la possibilité... Et mon adversaire m'offrira les mêmes possibilités, hein, parce qu'on a 2 mindbugs chacun, d'obtenir une carte du jeu adverse. Et ça, c'est assez ouf, parce que du coup, on rentre dans une pensée, en fait, une stratégie qui va être de long terme. Est-ce que tu penses que je suis assez clair d'ici là ?
Oui, oui, tout à fait. Sachant que si tu mindbug, en fait, ça vaut comme si tu avais joué.
Absolument, ouais.
Y a pas un trop, enfin ça permet en fait, si je mindbug, tu joues ta carte, je mindbug, je la prends, et du coup c'est à toi de rejouer en fait.
Oui voilà, si on mindbug notre créature et que du coup ma créature elle est plus à moi, effectivement je dois continuer à jouer parce que je n'ai pas fait mon action du tour, et c'est aussi très fort effectivement parce que on n'a pas l'impression de perdre son tour, mais surtout ça permet de rebondir un peu dessus et parfois de bluffer un peu l'adversaire, mais on va y venir. Comparatif, si on veut comparer, bon, j'ai déjà un peu comparé hein, sur les Clash of Deck ou trucs comme ça, Magic bien évidemment, mais Magic c'est la plus grosse référence qu'on a en tête. J'ai pas vu une seule personne parler de Mindbug, que je connaisse ou pas, la personne, et pas sortir une référence à Magic qui va avec, volontairement ou pas. Hein. Mais c'est clairement le jeu qui vient en tête. Il y a la notion de combo entre deux cartes, c'est-à-dire je pose une carte et derrière je vais jouer une carte pour soit détruire ma carte, soit faire défausser, soit reprendre la pioche, ainsi de suite. Il y a plein de trucs comme ça. La notion de méta sur la probabilité de piocher une bonne carte, sachant qu'on connaît pas son deck de base. Hein. On distribue 10 cartes, on pioche 5, mais on connaît pas le reste de son deck. Donc en fait, il y a un aspect de méta de est-ce que je vais piocher la bonne carte au bon moment ? Est-ce que j'ai envie de jouer ma carte maintenant, sachant que mon adversaire a un contre, finalement, comme Magic, avec le Mindbug ? Donc, en fait, il y a un effet de sentir le moment pour jouer. Et là-dessus, en fait, ça aide vachement à la comparaison. Et bien sûr, le fait qu'il y ait Richard Garfield dans le
quatuor, ouais, de création. Oui,
bien sûr, ça...
C'est là qu'on sent la patte, en fait. C'est pour ça aussi, je pense que c'est souvent à lui qu'on pense quand on pense à Mindbug, alors qu'il y a 4 auteurs. C'est parce qu'on voit cette patte-là immédiatement sur cet aspect-là, en fait, sur l'aspect du tempo du jeu.
Complètement. Et c'est désagréable pour les autres auteurs, je pense.
Oui.
Qu'ils soient là-dedans. J'ai regardé une vidéo de Tom Vassell, de Dice Tower, qui est assez connu, que je ne regarde très peu, finalement, comme vidéo. Mais lui, en fait, il a dans sa présentation, il a kiffé le jeu, bien évidemment. Et dans sa présentation, il dit, il résume Mindbug à dire, c'est un micro card game de Magic. Mm. Enfin, en fait, c'est si, il dit si quelqu'un veut jouer à Magic en 10-15 minutes, bah, il joue à Mindbug. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est très simpliste, mais c'est vraiment ça. Et il y a énormément d'effets autour de ça. Il y a vraiment le sel du Mindbug qui est assez fort.
Oui, il y a beaucoup de points de comparaison, même s'il y en a aussi qui l'éloignent. Mais il y a aussi le fait du blocage que tu choisis de faire ou pas.
Ouais,
contrairement à d'autres
ouais.
jeux où parfois tu es obligé de bloquer ou enfin c'est ça c'est un aspect aussi important c'est que tu c'est toi qui choisis de bloquer ou pas.
Oui, et en fait non seulement c'est toi donc quand je suis attaqué, c'est moi qui choisis de bloquer mais c'est moi qui choisis comment je bloque. Et en fait, il y a beaucoup de jeux effectivement où quand l'adversaire attaque, il choisit son la créature qui va attaquer. Je pense à World of Warcraft, enfin à Hearthstone pardon. Quand tu attaques, tu choisis la créature que tu vas attaquer ou si tu attaques l'adversaire directement. Et là, en fait, ça c'est vraiment très magique le fait de dire j'attaque et l'autre qui dit ok bah je vais défendre comme ça. Et là, de fait, ça veut dire que en tant qu'attaquant, tu as vraiment peu de main mise sur la fin du combat. Et en fait, tu dois donc te mettre en tête toutes les... Un peu comme aux échecs. Enfin, tu dois créer des lignes aux échecs pour dire si j'avance mon pion là, il y a une possibilité qu'il fasse ça, puis ça, puis ça. Et là, c'est un peu la même chose. C'est de dire, si j'attaque avec cette créature, quelles sont les possibilités que j'en fasse ? Il peut bloquer avec celle-là, ce qui fait que ma créature mourrait. Il peut bloquer avec celle-là, ce qui fait que sa créature meurt, mais a fait un effet quand elle est détruite. Et en fait, t'as vraiment des effets de stratégie qui vont monter un peu au fur et à mesure du jeu. Et c'est assez intéressant, sachant qu'à ton tour, tu ne peux attaquer qu'avec une seule créature. Donc tu peux avoir ton board rempli de créatures, 5-6 créatures avec des monstres, en termes de force, en termes d'effet, tu dois en choisir qu'une seule. Et du coup, c'est un peu dur de se dire, ok, celle-ci, je la garde, j'attaque, elle peut mourir, mais je vais me débarrasser d'une créature adverse parce que j'ai un poison par exemple, mais ça veut dire que je garde que celle-là en défense, s'il m'attaque je perds aussi, et t'as un effet en fait vraiment de balance en permanence d'équilibriste en disant ok comment je dois gérer la situation qui va venir au tour adverse sur laquelle je n'ai aucun effet, sachant que au tour adverse et à ton tour hein, si tu attaques tu ne joues pas de carte et si tu ne joues pas de carte tu peux pas mindbug, donc en fait ça veut dire que la situation elle est installée. Et du coup, il faut gérer avec une situation installée. Et si t'as pas beaucoup de cartes en face de toi, quand l'autre il a 3 ou 4 créatures, bah en fait, ça te pose la question de dire est-ce que je dois poser une créature à mon tour au lieu d'attaquer, sachant que j'ai une créature type furtif qui peut passer les défenses de l'adversaire comme ça. Est-ce que je dois au contraire faire attention à garder ma furtive pour me défendre, mais ça veut dire qu'elle va peut-être mourir parce que très souvent elles ont peu de points de vie. T'as vraiment un effet de création tactique qui est assez impressionnant.
Oui, sachant qu'en plus, tu es soit obligé de poser une carte, soit obligé d'attaquer. Oui, voilà. À Magic, tu peux très bien ne pas jouer de carte, ne pas attaquer et juste passer si tu le veux. C'est peut-être pas une stratégie,
sûr.
Mais là t'es vraiment, t'as un côté marche forcée. Parce
oui,
que tu dois faire quelque chose, et comme ton deck est très limité, en fait, 10 cartes, ça va, comme tu l'as dit, on en a 5 en main au départ, on a plus que 5 dans la pioche. En fait, il y a des moments où on préférerait presque ne rien jouer.
Ouais, bien sûr, mais tu peux pas. C'est ce qui fait que le jeu est rapide, c'est qu'en fait, t'es obligé d'avoir quelque chose qui est fait à chaque tour. Et j'allais dire, les créatures ne s'engagent pas comme à Magic, c'est-à-dire, si tu attaques avec une créature à Magic, ta créature n'est plus disponible autour de l'adversaire pour bloquer, sauf cas très spécifique. Mais là, c'est pas le cas. En fait, tu attaques, ta créature, elle est quand même là en défense derrière. Mais du coup, ça donne un effet très dynamique, très violent. En termes d'action directement quoi.
Oui, l'affrontement est plus frontal si on peut dire ça comme ça.
Ah ouais,
ça
ouais, fait, complètement.
Mais oui, c'est très. Le jeu est de fait beaucoup plus violent que d'autres jeux du même type quoi.
Ouais, ouais complètement. C'est vraiment. En fait, c'est ce que j'adore dans ce jeu, c'est que il y a plusieurs choses vraiment que moi je kiffe très fort. Un, c'est un jeu qui est ultra rapide à comprendre et la prise en main. De niveau 0, je veux dire, elle est ultra simple. À ton tour, tu poses une carte, à ton tour, tu attaques, point. Au tour de l'adversaire, s'il pose une carte, tu mindbug, point. Et en fait, la lecture des cartes, ça peut se faire au fur et à mesure, la compréhension de leurs effets, ça peut se faire au fur et à mesure, mais les règles, c'est 3 minutes chrono, quoi. Vraiment, c'est, la mise en place est rapide, c'est simple, c'est rapide. Il est rapide à jouer, 10 minutes max, vraiment, au-delà, tu rentres dans un jeu qui est trop tactique pour moi, presque. Mais à 10-15 minutes, c'est rapide, donc en fait, tu peux enchaîner les parties. Vraiment facilement. Et c'est un jeu qui, à mon sens, va t'apprendre la frustration de ce type de jeu. Magic, c'est un jeu pour moi qui est ultra frustrant, qui m'a appris la frustration de pas contrôler le jeu, perdre, mal piocher, pas comprendre ce qui se passe, ne pas avoir de combo alors que l'adversaire en a. Et en fait, c'est un jeu sur lequel tu es obligé de descendre tes niveaux d'attente et de contrôler ta frustration, sinon tu kiffes jamais une partie, en fait. Tu kiffes une partie sur 10. Et ce jeu est un peu comme ça, en fait. Et d'autant plus que Mindbug est un jeu qui, à mon sens, est ultra pété, dans le sens, les créatures sont ultra fortes. Franchement, à chaque fois que tu regardes une créature, tu fais « Waouh ! Putain, mais cette carte a fait défaut. C'est deux cartes à l'adversaire, alors qu'il a plus que quatre cartes en main. Mais c'est violent de ouf !» Et en vrai, chaque carte est comme ça. Quoi ? Cette carte, elle me fait gagner 3 points de vie. Oh putain, cette carte, elle remet l'adversaire au nombre de points de vie que j'ai. Je suis à plus que 1 point de vie. Et en main, j'ai une carte qui fait perdre un point de vie à l'adversaire quand je la pose. Mais attends, c'est ultra fort. Et en fait, t'as que des trucs vraiment, vraiment très balèzes. Mais ça veut dire que l'adversaire les a aussi. Et du coup, tu te retrouves toujours à ton tour de jeu, à poser une carte et dire « Boum, qu'est-ce qui se passe ? Je vais te rouler dessus. » Et subir la même chose quand l'adversaire pose une carte en face en disant « Oh putain, je vais me faire défoncer à mon tour suivant. » Et en fait, c'est vraiment que ça. Donc c'est vraiment un jeu qui est équilibré pour moi des deux côtés de la table. Quoi qu'on pioche, quoi qu'on ait en main, c'est fort. Et potentiellement, ça va intéresser l'adversaire parce qu'il peut voler cette carte. Et donc, une fois que, à mon sens, le jeu il perd en tension lorsque les deux mindbugs sont utilisés des deux côtés de la table. C'est en fait, dès que ça s'est passé, que chacun a utilisé un mindbug, c'est-à-dire que chacun a volé deux créatures à l'autre, le jeu il perd toute sa tension d'un coup, et oui, tu vois très vite où tu vas gagner, où tu vas perdre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois tes créatures sur la table, tu vois les créatures de l'adversaire sur la table, tu vois ce que tu as en main, tu dis, tu sais à peu près où ça va aller. Et c'est trop bien, vraiment c'est trop bien, parce que du coup, tu as un effet de frustration complète de se dire, non, je vais pas voler ce mindbug-là. Peut-être que la dernière carte que l'adversaire va jouer, c'est celle qu'il me faut pour gagner. Et du coup, tu as un effet un peu de tension de bout en bout, quoi.
Mais de fait, est-ce que toi, tu as l'impression que ça arrive souvent que les mindbugs ne soient pas finalement utilisés ?
Non, moi, je crois que les premières fois où j'ai joué, où je me faisais rouler, tous les mindbugs étaient toujours utilisés. Aujourd'hui, je trouve ça, c'est ultra rare quand je joue au jeu, que personne n'utilise son mindbug deux fois. Parce que t'as pas envie de se dire j'ai loupé l'occasion. Et encore une fois que c'est fini, t'as perdu. Tu t'es gouré, tu as perdu. Ok, on en refait une, on enchaîne. C'est pas très grave. Mais je trouve que cette tension, elle est. Il faut, à mon sens, à un moment dans le jeu, il faut la redescendre. Et il faut se dire ok, j'ai plus le choix. J'ai fini mes mindbugs, j'ai fait mon choix. Choisir, c'est renoncer. Hein. Mais c'est un peu ça. C'est de dire ok, j'ai plus de mindbug, j'ai choisi mes deux créatures à voler. Maintenant, il faut que je fasse attention à pas me faire voler celle qui me fait gagner. Et en fait, ton jeu, comme j'ai dit, une fois que tu as joué tes mindbugs, ton jeu, il est posé. Il n'y a plus de grands changements à part ta pioche, hein, ce qui est complètement hasardeux. Donc, tu fais avec ce que tu as en main. Tu ne peux pas compter sur une créature que tu ne connais pas, qui est dans ta pioche. Et du coup, tu vas te poser en disant ok, cette créature-là, c'est celle qui potentiellement va me faire gagner la game parce qu'elle est furtive, parce qu'elle est poison, parce qu'elle est machin, parce qu'elle détruit des cartes adverses, et ainsi de suite. Et du coup, c'est comment protéger cette créature du ou des mindbugs qui est en face, c'est en tentant l'adversaire avec d'autres trucs. Et du coup, je trouve que là, le jeu rentre dans une nouvelle phase. En fait, il y a trois phases de jeu. Il y a la phase de, on a tous les deux des mindbugs, et du coup, c'est un peu
c'est
du...
C'est un peu la guerre froide.
C'est un peu la guerre froide, c'est au premier qui va dégainer. La phase de, j'ai plus de mindbugs, ou l'adversaire n'en a plus, et du coup... Moi, j'ai encore un niveau... Soit je suis en avance parce que j'ai encore des mindbugs, soit j'en ai plus du tout. Et du coup, je dois contrôler un peu plus le jeu, faire du vrai tempo. Et la troisième phase de, ok, plus personne n'en a. Et là, c'est la guerre ouverte, quoi. On rentre dans l'art de l'adversaire en disant, ok, quelle est la meilleure combo par rapport aux cartes que j'ai en main et aux cartes que j'ai sur la table, quoi.
Ouais, en fait, je trouve que le mindbug, il donne... c'est lui qui fait le tempo du jeu. Souvent dans les jeux d'affrontement comme ça, c'est vraiment le tempo qui est la clé du succès. Et c'est le mindbug qui fait le tempo du jeu parce que, à la différence de beaucoup de jeux, en fait, tu ne sais pas ce que tu as dans ta pioche. Alors que dans un jeu classique, même si tu ne sais pas ce que tu vas piocher, tu connais tes cartes. Tu sais sur quoi tu peux tomber. Là, tu sais qu'il y a des cartes qui n'y seront pas. En fait, si tu connais les cartes, ouais, tu sais quelles cartes. Là, tu ne peux pas savoir ce que tu veux, ce qui va arriver et ce que l'autre va avoir. Enfin, c'est.
Complètement.
Mais comme tu connais les cartes, puisque ce ne sont pas des decks personnels, tu sais quand même ce que l'adversaire pourrait avoir. Donc c'est vraiment aller sur aller sur toutes les possibilités, les hypothèses que tu peux échafauder très rapidement dans ta tête, que ce que se fait le tempo du jeu. Et je pense que tu vas avoir, selon les types de joueuses, des façons de jouer très différentes, des personnes qui vont essayer de rusher D'autres qui vont plutôt, au contraire, essayer de garder des défenses, etc. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure stratégie. Enfin, je sais pas s'il y a une bonne stratégie, en vrai, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait le tempo. C'est le fait de toujours être vraiment dans une incertitude qui est très, très forte sur ce qui va se produire tant que les mindbugs sont en jeu. Je suis d'accord.
Après, effectivement, tu as cette grosse incertitude de je ne sais pas ce que je vais piocher, mais comme je l'ai dit, toutes les créatures sont pétées en fait. Donc à un moment, tu vas forcément piocher un truc qui va à peu près aller dans ta combo, qui va te sortir d'une merde où tu t'enlises en fait en disant ok, j'ai pas vraiment, tiens, j'ai pas assez de furtive, l'autre en a trois en face. du coup, comment je fais? Ah bah tiens, je pioche la carte qui fait que lorsque je pose, je détruis toutes les créatures de force 4 et moins. Ultra pété, mais grosso modo, ça détruit toutes les furtives.
Oui, et t'as la carte qui te permet de reprendre toute ta défausse aussi, qui est pas
oui,
mal.
Oui, aussi, c'est ça.
Qu'il faut jouer en fin de partie, voilà. Mais
t'as vraiment tout qui est bien. Et quand t'as tes cartes qui sont en double, toutes les cartes ne sont pas en double dans le jeu, mais quand t'as deux fois la même carte, parfois tu te retrouves vraiment à sourire en disant ça va faire du mal quand je vais poser ça et que je vais récupérer 9 points de vie, quoi. Tu vois, ça va être un peu. Enfin, que je vais monter à 9 points de vie. Donc, non, c'est vraiment assez balèze. À mon sens, il y a effectivement plusieurs tactiques de jeu dans ce jeu-là. C'est vraiment soit poser, kiffer et attaquer, vraiment le truc de base. On peut avoir un niveau de jeu où on est dans le bluff total et tenter l'adversaire avec des bonnes créatures en se disant vraiment... Il y a un effet un peu District Noir, je le compare de loin, mais cet effet de « j'ai envie que mon adversaire prenne des cartes ». Et je vais lui mettre des bonnes cartes tout de suite. Et en fait, t'as un peu l'effet de « Ah putain, s'il met des bonnes cartes tout de suite, c'est qu'il a des trucs encore plus fous en main et qu'il veut pas me les donner. » Et du coup, tu sais que tu dois tenter l'adversaire là-dessus. Ou alors bluffer en disant « Bah non, je mets mes grosses cartes, mais je te fais croire que j'en ai encore des meilleures. » Tu peux essayer de rentrer dans la méta des combos de défausse de cartes pour les reprendre en main ou au contraire, faire défausser l'adversaire. Parce que moi, une fois, j'avais gagné une partie comme ça. Alors, je pense que c'était vraiment de la chatte, mais j'avais eu les cartes qui font défausser l'adversaire. Et en fait, moi, du coup, je reprenais mes cartes dans ma défausse avec la créature associée. Et du coup, je continue à le faire défausser. Et en fait, au fur et à mesure, c'est quand t'as plus de cartes en main et que t'as deux créatures sur la table, t'as plus que le choix de t'attaquer, en fait. Et du coup, c'est pas forcément la situation dans laquelle t'as envie de te retrouver. Et franchement, c'est assez intéressant de... Ok, tout devient dangereux, en fait. Prendre une carte de l'adversaire avec le mindbug, c'est potentiellement dangereux parce que tu te loupes une carte. Poser une carte, ça devient dangereux parce que l'adversaire peut la prendre. Attaquer... est dangereux aussi parce que tu contrôles pas nécessairement la finalité de l'attaque. Franchement, c'est pour moi, c'est presque épuisant au bout d'un moment de te dire si tu réfléchis à tout ça tout le temps, t'as l'impression d'avoir un blocage mental sur je ne sais pas quoi faire. Et vraiment, c'est super intéressant.
Je trouve que c'est très difficile de temporiser. En fait, il n'y a pas de moment où tu... Comme les parties sont faites pour être très rapides, c'est aussi ce qu'il explique. Hein.
Ouais.
Je trouve qu'il n'y a pas de phase du jeu où tu peux te dire bon, là, je temporise, parce que comme tu as cette marche forcée permanente, c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui fait que c'est très violent dans l'affrontement, mais aussi violent pour ce que tu expliques, hein, cette tension que tu as en toi, parce que chaque choix est vraiment important, quoi. Enfin, ouais. Est vraiment crucial. Il n'y a pas de moment où tu peux dire ok, là, je vais laisser passer, je vais redescendre un peu la tension pour reprendre mes esprits et re-réfléchir. Tu dois jouer un peu dans l'immédiat et c'est assez sollicitant intellectuellement.
Ouais, complètement, ouais. Je suis assez d'accord. Je sais pas quoi dire de plus sur ce jeu. Franchement, si avec ça je vous vends pas le jeu de base, je comprends pas ce qu'il veut vous vendre. Mais moi, c'est un jeu que je kiffe. C'est un jeu qui est pas... Je crois qu'il est vendu à 20 balles chez...
La Caverne.
Ouais, j'ai un doute maintenant que je le dis, parce que je sais plus à combien il peut être vendu. Parce que Yellow a fait... Je suis pas très content du travail éditorial de Yellow là-dessus. Ils ont fait une grosse boîte, je trouve.
Il est à 17,90 chez La Caverne du Gobelin, pour la boîte de base.
Ouais, et je trouve qu'ils ont fait une grosse boîte par rapport à ce que c'est. Alors, je sais qu'il faut avoir des boîtes un peu plus grosses pour être visible et tout, mais la boîte de base, c'est vraiment un deck de cartes, et je trouvais ça assez intéressant. Là, il y a les nouveaux serviteurs qui sont sortis, qui est une extension à 9,90, qui est aussi dispo. Oui. Je l'ai reçu là, mais j'ai pas eu le temps de...
ça te rajoute des nouvelles créatures, c'est ça?
Ouais, ça rajoute des nouvelles créatures qui, a priori, sont assez ouf. Il y avait des trucs vraiment cool. Je crois que ça rajoute 10 créatures, si j'ai pas de conneries.
D'accord.
Ça fait un peu cher, l'extension, mais franchement, moi, je la trouve très belle. Ouais, je vois la taille du paquet là sur ma table, elle n'est pas à côté de moi, mais je vois la taille du paquet, ça ne doit pas être plus de 10 créatures, peut-être 12 maxi. Mais effectivement, il a un peu. Voilà, l'extension sort facilement. Dans le KS, il y avait des cartes supplémentaires aussi, qui étaient du coup les paliers débloqués, qui étaient des cartes complètement pétées en mode si cette créature attaque, vous gagnez la game ou un truc comme ça. Que j'enlève naturellement quand je joue au jeu parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, ça déséquilibre un peu le jeu. Mais il faudrait que j'essaie de faire des parties. Mais voilà, Mindbug, je ne sais pas quoi vous dire, c'est vraiment ultra agréable à jouer. Voilà, foncez, et testez. Mais
est-ce que tu penses que c'est un bon jeu d'initiation ou pas à ce type de jeu ou pas en fait?
Ouais, bien sûr. Je trouve que, en fait, comme tu as vraiment l'effet de je peux juste jouer au jeu en posant des cartes et attaquer, qui est le niveau zéro du jeu, et en faisant du Mindbug quand je pense que c'est plutôt pas mal, tu peux t'amuser, mais c'est pour ça que je dis, attention, c'est un jeu qui va vous frustrer, en fait, et qui va vous apprendre à gérer cette frustration de « je gagne, je perds ». En fait, il a un peu... ce que Keyforge, pour moi, avait de mauvais, c'était la gestion du board qui fait que t'as l'impression dans Keyforge de perdre, parce que t'as pas de créatures, t'as très peu de créatures, tu te fais péter le board en permanence, mais tu peux gagner parce que le cœur du jeu, il est pas sur les créatures, il est vraiment sur la forge des clés. Et en fait, il a un peu ce côté-là de... dans Mindbug, parfois t'as la sensation de perdre, parce que tu te fais voler une créature que tu voulais, parce que ta créature forte est détruite, parce que ta combo ne fonctionne pas comme tu voulais, ou un truc comme ça, mais tu peux gagner quand même. Et en fait, il a un peu cette ambivalence de « je gagne la game, mais... j'ai l'impression de pas avoir gagné parce que je me suis fait un peu rouler dessus au début ou j'ai gagné sur le fil ou j'ai gagné parce que l'adversaire a mal joué. Tu vois, t'as un effet de frustration un peu dans les deux sens de temps en temps. Et je trouve que ce genre de jeu t'apprend justement à gérer cette frustration, cette perte de contrôle ou perte de contrôle parce que tu contrôles pas grand chose sur la pioche, sur les créatures que t'as dans ton deck, ce genre de choses. Et moi, je trouve ça agréable une fois que tu t'affranchis de ça. Une fois que t'arrives à passer le cap du OK, en vrai, c'est pas grave, on va en refaire une autre et ça va bien se passer. Et c'est un peu délicat. Et il faut trouver cet équilibre, quoi. Ouais, il faut trouver cet équilibre, hein. Vraiment, c'est pas simple.
Oui. Mais je pense que c'est le plus difficile, en fait. C'est, bon, il y a l'apprentissage de ces types de jeux, il y a toujours une phase d'apprentissage.
Ouais.
Qui est en réalité très, très longue. Et même quand on pense commencer, on s'aperçoit qu'en fait, on en est très loin. Mais je pense que le plus difficile, effectivement, c'est la frustration qui est liée au sentiment d'incapacité à faire quoi que ce soit. Ouais. Vraiment le sentiment d'impuissance qui est très, très difficile et surtout qui est tellement antinomique, par exemple, de ce qu'on fait dans les jeux de gestion où on a beaucoup de contrôle. On est censé avoir beaucoup de contrôle et où on est souvent dans des situations comparables. Là, on est dans des situations qui ne sont pas du tout comparables entre adversaires puisqu'on n'a pas du tout les mêmes cartes, en fait, clairement. Et qu'on n'a pas choisi, en tout cas dans Mindbug, on ne les choisit pas, on ne sait pas comment on va les piocher. Et les cartes qu'on a, l'adversaire peut aussi les avoir, et en plus, il peut te les voler. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Enfin, je confirme que c'est... Moi, je trouve ça un des jeux les plus frustrants. Alors, effectivement, comme les parties durent moins de 10 minutes, ça passe. Enfin, on peut... Mais c'est sûr que si tu retranscris ça avec plus de durée, plus d'investissement... en temps et en temps mais aussi en soi-même, enfin le fait de se mettre soi-même, c'est assez violent, hein. Moi je trouve que le jeu est très très violent en fait.
Très
violent,
mais c'est vraiment tous les mauvais effets de Magic, tu les retrouves un peu dedans, hein, là-dessus, de non contrôle, de ça fonctionne pas, ça tourne pas, c'est machin, tu pioches mal ou ainsi de suite, mais ouais, comme ça dure 10 minutes, tu peux te dire ok, et t'as quand même le niveau de jeu qui compte. Enfin, une personne qui a beaucoup joué, qui connaît les cartes par cœur et toi, t'es novice. Ouais, bien sûr, c'est difficile à jouer. Tu vas pas gagner. Mais c'est quand même. Ça montre. Alors, c'est un argument dans le sens de dire, ça montre qu'il y a une profondeur de jeu qu'on ne soupçonne pas déjà.
Oui. Bah, comme quoi, tu peux avoir un tout petit jeu qui dure pas longtemps, qui est bien plus profond que certains gros jeux qui durent très longtemps. Mais qui n'ont aucune profondeur de jeu. Hein. Oui, ça démontre l'argument de toujours penser que un gros jeu avec des grosses règles et qui dure longtemps est plus profond qu'un petit jeu. Ça,
Complètement. Clairement. Complètement. Mm. Donc il faut juste se dire que c'est un jeu qu'il faut, et parce qu'il dure 10 minutes, c'est un jeu qu'il faut répéter pour pouvoir comprendre et t'amuser au bout d'un moment dessus. Mais vraiment, mais j'aurais toujours le même discours sur tous les jeux, et je ne suis pas le meilleur exemple, mais affranchissez-vous de la frustration de gagner ou de perdre, ou de mal jouer, entre guillemets, pour prendre le plaisir de jeu là où il est, c'est ultra difficile. Mais quand on arrive à avoir, enfin, ça arrive hein, de se dire, c'est pas grave, j'ai perdu, on continue. Et vraiment, c'est agréable parce que tu vas prendre que le plaisir. Mais je suis un mauvais exemple hein, quand je joue à Magic, que j'ai mis je sais pas combien de temps à construire mon deck ou à essayer de comprendre comment il fonctionne et perdre. Je suis ultra frustré, t'as plein de choses qui tournent autour de ça, mais faut vraiment essayer de s'affranchir de ça et dire « Ok, je kiffe le temps de jeu et puis on verra comment ça passe. » Mais là, c'est clairement ce genre de jeu. Quoi.
Oui, mais c'est aussi parce que c'est des jeux dans lesquels tu t'investis beaucoup,
oui, bien sûr.
Personnellement.
Ouais, bien sûr.
Comparé à d'autres jeux où la défaite est beaucoup moins, est beaucoup plus acceptable. Enfin, je trouve que dans les jeux de gestion, la défaite, elle est beaucoup plus acceptable que dans ces jeux-là où tu fais vraiment corps avec le jeu, c'est presque toi, c'est vraiment toi, presque à titre personnel, qui a perdu. Et c'est là, en ça, que c'est très difficile à gérer.
Oui, ouais. Dans les jeux de gestion, t'as le hasard qui est très minime, ou quasi inexistant même, qui fait que c'est de ta faute. C'est toi qui gères du début à la fin. Donc, la frustration, elle peut venir que de ta façon de penser. Tandis qu'effectivement, là, t'as du hasard sur du hasard sur du hasard. Bien sûr, t'as l'impression que le monde est contre toi ou que la vie est contre toi quand tu sors pas la bonne carte, quand tu perds, et ainsi de suite.
Ok. Moi, je trouve aussi, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais après, c'est peut-être un problème. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les mots-clés du jeu. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a 5 mots-clés. Hein. J'ai toujours besoin de relire à chaque fois les effets, et ça, je ne comprends pas pourquoi. Je sais pas si c'est très mal présenté dans la règle ou s'il manque peut-être une aide de jeu qui te rappelle juste avec les mots-clés de façon assez limpide, mais moi j'ai vraiment du mal avec les mots-clés du jeu. Je sais pas.
T'es pas la première personne à me le dire. Je pense que c'est un passif sur Magic qui me donne ça, mais moi je les ai lus une fois et je t'ai dit ok, c'est cohérent. Tu vois, poison, ok, je comprends complètement ce que c'est. Coriace, ok, il est coriace, c'est-à-dire qu'il prend 2 points de dégâts au lieu d'un. Chasseur, hein, c'est-à-dire qu'il vise, donc il va choisir sa cible. Furtif, il passe les défenses adverses. Il m'en manque un peut-être. Fury, ça veut dire qu'il va attaquer 2 fois. Pour moi, ça parle logique.
Non, mais les termes sont évocateurs et quand tu le lis, tu te dis oui, c'est logique. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à les retenir.
Ouais, mais t'es pas la première personne à me le dire, donc je pense que c'est peut-être une représentation différente.
Et je pense que c'est pas, il manque quelque chose dans l'édition pour te les faire. Ou c'est mal expliqué ou c'est mal présenté, mais quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus parlant. Parce que par exemple dans Keyforge, t'avais le même système et ça m'a jamais posé de difficultés. Dans Magic, t'as le même système et au bout d'un moment, tu finis par connaître quand même les effets principaux.
Oui, mais c'est parce que Magic, c'est la répétition qui fait que tu comprends les effets. Et c'est noté sur la carte en plus.
Oui, c'est pas toujours noté sur la carte et même parfois tu peux t'en souvenir. Mais là, je trouve que je sais pas. Je pense qu'il manque une aide de jeu clairement. Surtout si c'est, je pense qu'il manque une aide de jeu propre pour aider les. Surtout quand tu débutes, c'est peut-être un petit souci d'édition quoi.
Ouais, sur la version que j'ai, l'aide de jeu, elle est au dos de la règle, donc tu
mets
la règle.
Elle est bien dégueulasse. C'est très mal présenté, c'est
la
vraiment
règle.
Pas. La règle de toute façon est pas terrible en général. Et le truc auquel tu fais référence, où il y a les mots clés en gras, etc. Ouais. Après c'est peut-être que ça vient de moi, hein, j'en sais rien. Moi je trouve que c'est pas du tout bien fait. Enfin, ça a pas été pensé pour être que tu puisses en un regard embrasser le concept quoi.
Je
pense qu'il manque un peu de réflexion sur une meilleure présentation, mais c'est
possible. Moi ça me gêne pas, mais je vois l'idée. Comme c'est pas la première fois qu'on me le dit, j'imagine que il y a peut-être une habitude que j'ai autour de ça que les autres n'ont pas, ou je sais pas, mais je vois l'idée.
Donc l'extension, il y a d'autres extensions qui sont prévues ou pas ?
Pour le moment, je ne sais pas. Je savais qu'il y avait déjà une première cette extension, je savais qu'elle avait été annoncée très tôt, mais j'imagine que oui, ils vont faire d'autres. En fait, ça va dépendre du succès du jeu. Hein. Je sais pas si le jeu a vraiment énormément fonctionné ou pas. J'imagine que oui, mais en tout cas suite au KS, mais je sais pas où on sent les chiffres de vente, j'avoue.
D'accord. Bon. De toute façon, c'est un jeu qui s'y prête. En soi, ces jeux-là se prêtent ou aux extensions ou à l'ajout de nouvelles cartes.
Ouais, complètement. Je sais pas si officiellement il est sorti en 2023 en France ou en 2023.
Oui, si, en 2023, 2023 en France. Pour la version retail, oui.
Parce que moi, je l'ai reçu en décembre et on me l'a. Ah oui, non, mais c'est pas la version retail. C'est pas la version Yellow, oui, c'est oui. La version... Oui, d'accord, ok.
Oui, ouais, toi, ça. Tu dois avoir la version du Kickstarter.
Ouais, mais, non, mais c'est parce que j'ai un pote qui m'a offert le jeu aussi en sachant pas que je l'avais. Et du coup, il me l'a offert aussi en décembre. Mais je crois que c'est pas la version Yellow, du coup.
C'est pas la version Yellow, parce que la version Yellow, elle est sortie très récemment, ouais. En mars ou quelque chose comme ça. Je dirais
donc
en
c'est
mars,
un peu tôt, hein, effectivement, pour se rendre compte si le jeu a un bon démarrage ou pas.
Oui. Ouais, je pense que à voir. Hein. Après, c'est sûr qu'il a un format qui a priori en ferait un très bon candidat à une bonne réussite puisque, comme tu l'as dit, c'est un format qui est facile à prendre en main et qui est très bien, qui paraît un bon format d'initiation.
Ouais. Et c'est pour ça que je disais, à mon sens, Yellow fait un souci. Je leur reproche un problème d'édition là-dessus, de faire une boîte qui est proche de Fantasy Realm, par exemple, mais parce qu'ils veulent le rentrer dans cette catégorie-là. Hein. Mais du coup, c'est alors qu'à la base, j'imagine bien les autres, enfin, connaissant un peu Garfield, j'imagine que le mec voulait juste se dire, je veux un deck de cartes qui rentre dans la poche et que les gens puissent sortir n'importe où et n'importe quand. Et en fait, là, du coup, on sort un peu de ce concept-là, de se dire, c'est plus exactement la même chose, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Mais c'est un détail du détail du détail. Quoi. C'est rendu, hein. Le jeu est bien, achetez-le, éclatez-vous.
Ok. Autre chose à dire? Non, c'est bon pour toi?
Non, c'est tout pour moi. Je kiffe ce jeu, j'adore, j'y joue pas assez, mais je me disais que j'avais le deuxième deck, je devais la rapporter au bureau et le laisser là-bas pour pouvoir faire des parties avec mes collègues et leur présenter le jeu. Mais je me disais ça en même temps que je parlais du jeu.
D'accord. Voilà. Bon, tu pourras nous faire un retour dans les commentaires pour nous dire si tes collègues ont apprécié ou pas.
Ouais, carrément, ouais.
S'ils sont pas trop familiers de ce genre de ce type de jeu, justement, c'est un bon.
Bah,
un
j'ai
bon
une collègue qui joue à Star Realm. Elle a découvert le jeu il y a pas très longtemps et elle adore. Elle dit c'est vraiment trop bien. Je me dis ok, je pense que je peux l'initier à ça sans problème.
Très bien.
Et toi, de quoi tu nous parles ce mois-ci?
Eh ben moi, je vais parler aussi d'un jeu qui se joue à deux avec beaucoup de cartes, mais pas que. On va parler de Pagan Fate of Roanoke. Pagan Fate of Roanoke, c'est un jeu de deux auteurs danois qui s'appellent Kasper Kier Christiansen et Kere Storgart. Ces deux auteurs qui n'ont pas fait énormément de jeux. J'ai trouvé aucune autre occurrence pour Kasper Kier Christiansen et pour le second auteur, Kere Storgart, il a fait un jeu qui s'appelle Hospital Rush, mais dont je ne sais pas beaucoup plus de choses, j'avoue. Il a été édité dans sa version d'origine par Wyrmgold GmbH, hein, donc qui est un éditeur allemand qui avait édité Robin of Locksley de Rosenberg et puis un autre jeu qui s'appelle Trarensaren. Et l'AVF, la localisation, elle a été faite par Super Meeple pour la France, c'est distribué par Neoludis. Donc je l'ai dit, c'est un jeu exclusivement de joueuses, il n'y a pas, il y a aucune possibilité de jouer à plus. Il est indiqué, il est recommandé pour 12 ans et plus, et je pense que c'est un âge correct. Si vous avez des enfants vraiment joueurs qui ont l'habitude de jeux de cartes et aussi de supporter des parties un peu longues, ils pourront y jouer avant, bien sûr, mais je pense que 12 ans, en général, c'est un bon âge. Les parties vont durer entre 30 et 60 minutes, je dirais plutôt plus proche de 60, surtout sur les premières parties. Et il a parce qu'il a quand même un poids de 3 sur 5 sur BGG et une note de 8,7, ce qui est quand même une très bonne note. Enfin, c'est au moment où je vous parle, hein, ça peut toujours changer. Oui. Donc, Pagan Fate of Roanoke, c'est un jeu qui est présenté comme un jeu asymétrique pour deux. Alors, en fait, il est asymétrique parce que, effectivement, on va incarner chacun, ou chacune plutôt, un rôle. On va être soit la sorcière, soit le chasseur de sorcières. Ça va être également un jeu asymétrique sur la façon dont on va jouer. Dans le sens où on ne va pas sur les ressentis du jeu, le mode de jeu, mais ce n'est pas vraiment le gameplay qui est asymétrique. En réalité, on va jouer vraiment de la même façon, ou plutôt en miroir. J'expliquerai un petit peu plus en détail après. Donc je l'ai dit, on a des rôles. On a la sorcière qui affronte un chasseur de sorcières, puisque ça se passe dans le thème du jeu, je reviendrai également dessus après, on est à la fin du XVIe siècle, en Caroline, je crois que c'est en Caroline du Nord, oui, dans une colonie qui a été fondée par des migrants, et avec une sorcière qui veut en gros s'emparer du village et qui doit s'emparer d'un villageois, et elle est chassée donc par le chasseur de sorcières. La sorcière gagne si elle parvient à lancer son rituel et prendre possession du villageois qu'elle convoite. Et le chasseur, lui, doit parvenir à trouver ce villageois et l'éliminer avant que la sorcière ait eu le temps de lancer son rituel. Donc il y a une forme de course comme ça et de track qui va s'installer entre les deux joueuses. Donc on a ces deux rôles qui sont asymétriques. On a deux objectifs différents, hein, lancer le rituel d'un côté et trouver le villageois avant que le rituel ait été lancé. Il y a tout un système de jeu, la monnaie du jeu qui va être l'influence que chacune des joueuses va avoir auprès de la communauté. Je pense que c'est thématisé comme ça, c'est auprès de la communauté du village et qui va être une forme de monnaie, puisque c'est ça qui va permettre de faire certaines actions et aussi de payer les cartes que l'on va jouer, puisqu'on va pouvoir parler, on va pouvoir jouer avec des cartes, puisque chacune des joueuses a, en fonction de son rôle, un deck particulier de cartes qui vont fonctionner, je l'ai dit, en miroir, mais qui sont malgré tout différentes. En gros, la sorcière, elle va disposer de quatre types de cartes différents. Il y a des cartes malédiction qu'elle va jouer donc en dépensant des points d'influence pour entraver l'action du chasseur, lui rendre ses actions difficiles, par exemple augmenter le coût de ses actions, l'obliger, lui interdire de faire certaines choses, etc. Il y a des cartes dites enchantements qui vont être des effets one-shot qu'elle va pouvoir jouer pour en tirer des bénéfices. Et il y a aussi ensuite un système de potions et de familiers. Les potions sont des cartes qui vont lui donner un énorme avantage, mais qu'il va falloir recharger, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir poser des jetons dessus. J'expliquerai après comment, pour pouvoir les utiliser. Et une fois que la potion elle est préparée, finalement, on la boit, c'est très thématique, on la boit et on la défausse. Et ça donne un effet très puissant. Et puis, il y a aussi le familier. Le familier, c'est une carte que l'on va pouvoir placer devant soi et conserver. Ça va être un effet permanent qu'on pourra jouer au moment où on fait nos actions. Le chasseur, de la même manière, il a quatre autres types de cartes. Il a des alliés qu'il va pouvoir jouer, c'est un peu le pendant des familiers, qu'il va pouvoir poser devant lui et qui vont lui donner des effets permanents. Il a des lieux qui vont lui ouvrir des actions supplémentaires lorsqu'il jouera ses actions. Il a des cartes événements qui sont des effets one-shot. Et il a des cartes enquête qui sont des cartes très contraignantes pour la sorcière qu'il va pouvoir poser devant les villageois. Oui, parce que on va jouer avec des cartes, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Les cartes ne sont pas la mécanique principale du jeu. C'est une des deux mécaniques. La seconde mécanique, c'est une forme de placement d'ouvrier, puisque chaque joueuse va disposer de 3 jetons qui vont lui permettre de dire quelle action elle fait. Il y a une partie qui est l'action principale. C'est vraiment le cœur du jeu, c'est d'aller visiter les villageois. On a 9 villageois. Au début de la partie, la sorcière aura pioché un de ses villageois en secret, bien sûr, et c'est le villageois qu'elle doit pouvoir, sur lequel elle va devoir lancer son rituel. Et elle garde cette carte et le chasseur va garder les 8 autres villageois face cachés dans un deck à côté de lui. Et finalement, lorsque je vais voir un villageois, c'est l'action principale, je pose mon jeton sur ce villageois et ça a plein d'effets. Tout d'abord, je vais rendre ce villageois indisponible, comme dans du placement d'ouvrier classique, pour l'autre joueuse, pour le prochain tour finalement, puisque je n'enlèverai mes jetons qu'au début de mon prochain tour. Donc ce villageois ne sera plus disponible. Ensuite, je vais pouvoir faire l'action de la carte. Les villageois permettent soit de gagner de l'influence, soit de piocher des cartes, soit de jouer des cartes. Hein. En gros, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on va principalement faire nos actions. Mais les villageois permettent aussi de distribuer des petits jetons, soit les secrets, soit les indices. Les secrets, c'est ce que va distribuer la sorcière. Les indices, c'est ce que va distribuer le chasseur. Et en fait, on va les distribuer en fonction du villageois qu'on va voir sur un personnage de couleur, parce qu'il y a 3 couleurs pour 3 factions. Donc les villageois sont classés en 3 factions, 3 couleurs. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que je vais rendre visite à un villageois qui a déjà 3 jetons à moi devant lui, alors je peux transformer ces 3 jetons en une preuve ou bien une faveur. Et c'est seulement grâce à ces systèmes de preuves et de faveurs que soit je pourrais lancer mon rituel, soit je pourrais tuer quelqu'un. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir avancer dans la partie. Les cartes, elles viennent en support finalement du jeu, mais tout le cœur du jeu, c'est de rendre visite à des villageois pour distribuer mes jetons. Plus j'arrive à distribuer mes jetons, plus je pourrai ensuite les transformer pour récupérer soit les faveurs dont la sorcière a besoin pour lancer son rituel, soit les preuves dont le chasseur lui a besoin pour les échanger contre une des fameuses cartes villageois qui est restée dans la pioche, ce qui permet à chaque fois de disculper un des personnages du jeu. Donc c'est vraiment l'action principale, elle est là, elle est d'aller voir les villageois, et c'est pour ça que je disais les cartes enquête, elles peuvent être importantes parce qu'elles vont permettre de bloquer finalement le positionnement, ou les cartes malédiction et les cartes enquête, elles vont permettre en miroir de bloquer le positionnement de l'autre joueuse dans le village finalement. Mais il y a d'autres actions que tu peux faire avec ton jeton. T'as aussi des actions très génériques si tu veux vraiment jouer une carte ou piocher une carte, ou gagner de l'influence, tu peux toujours le faire. Et puis ensuite, il y a la possibilité d'aller lever une malédiction pour le chasseur, hein, c'est les fameuses cartes que la sorcière va lui mettre pour le contraindre. Il y a l'action de disculper un villageois, c'est d'échanger les trois preuves pour récupérer une carte et savoir que ce n'est pas ce villageois qui est visé. Le chasseur peut aussi poser son jeton sur un de ces lieux, pour faire l'action des lieux qu'il aura précédemment joué. Et la sorcière, c'est en jouant son jeton familier, parce qu'elle a trois jetons, dont un qui représente le familier, c'est en posant ce jeton-là qu'elle va pouvoir en plus faire l'action de son familier. Les autres actions sont importantes, parce qu'elles permettent aussi de rendre disponible un villageois où l'autre a posé son jeton. Je peux toujours, au prix d'une action, dégager son jeton si je veux vraiment aller voir ce villageois, mais c'est très cher, puisqu'au final, il me faut deux actions pour le faire. Il me faut l'action de rendre disponible, et aussi l'action de visiter le villageois, qui est l'action vraiment classique du jeu. Et à chaque fois que je ne fais pas une action rendre visite à un villageois, ça veut dire que je ne bloque personne sur le plateau, enfin dans la frise du village, où il y a toutes les cartes villageois, je ne bloque personne pour l'autre. Donc si je le bloque moi, je lui ouvre beaucoup plus de possibilités pour jouer. Et il y a aussi des actions qui permettent d'aller virer les jetons de l'autre, c'est assez cher aussi. Mais c'est...
Les actions de la loose.
Comment ?
Ce sont les actions de la loose, tu sais.
Ça, c'est vraiment quand on se sent débordé, puisque si un village, pour que la sorcière, par exemple, lance son rituel, il faut qu'il y ait trois jetons faveur, hein, qui sont donc la conversion de neuf jetons secrets. Donc là, c'est un peu, je sais pas si c'est très parlant, mais en gros,
ouais, ça devient
un peu compliqué à envisager comme ça, façon abstraite. Mais si on se sent vraiment débordé, on est obligé de le faire, harceler un villageois pour dégager des jetons. Et de la même manière, la sorcière, je crois qu'elle a un moyen de aussi virer, je me souviens plus exactement, mais elle a aussi une action qui lui permet de retirer des jetons du chasseur, puisque pour que le chasseur puisse éliminer le villageois qu'il pense, il doit avoir des jetons posés partout sur le plateau, sur chacun des villageois. Donc effectivement, ça peut être aussi un moyen de retarder l'échéance. Moi, j'ai remarqué que sur les parties que j'ai faites, on est à chaque fois, la résolution de la partie, elle se fait en un tour de jeu, c'est-à-dire que si ce n'est pas le chasseur qui élimine, de toute façon, au prochain coup, la sorcière fait le rituel et inversement. Enfin, c'est très très...
Ouais, on...
Vas-y.
Vas-y, va.
Non, vas-y.
Non, je suis assez d'accord, c'est, à chaque fois, c'est sur la limite, quoi. C'est, ouais. Si l'un gagne, l'autre gagne au tour d'après, ça a toujours
été
le
cas. On est toujours sur le fil. On pourrait croire que pas du tout. Moi, on m'a dit, j'ai beaucoup entendu que le jeu était déséquilibré. Je trouve pas du tout. Je trouve qu'à chaque fois, ça se finit sur le fil et on arrive à un moment de tension très très fort, quoi.
Ah, je regardais mes parties. Là, j'ai trois parties, trois fois le chasseur qui gagne, mais toujours sur le fil. Et en vrai, c'est vraiment un choix de. Mais c'est pas toi qui me disais que t'avais eu des parties où c'est toujours la sorcière qui gagne.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu beaucoup plus de parties où c'était la sorcière qui gagnait. Donc comme quoi c'est vraiment, et de toute façon à chaque fois ça se terminait en un tour, enfin si c'était pas ce tour là c'était le tour d'après de toute façon, un peu comme route, hein. Je sais pas si route, moi j'ai remarqué qu'en fait y en a un qui gagne et tu t'aperçois que de toute façon s'il ne gagnait pas au tour d'après, les quatre autres joueuses autour de la table pouvaient gagner.
Ouais,
ce qui fait que tu te dis en fait le jeu est très bien équilibré, parce que sinon c'était pas possible. Et même indépendamment du, bien sûr tu vas dire il y a la compétence des personnes, mais moi j'ai joué avec des gens qui avaient le même degré de connaissance pour moi du jeu, le même nombre de parties, parce que j'ai joué à chaque fois avec des personnes qui avaient déjà joué au jeu, enfin on avait vraiment le même niveau, hein, donc il y a pas de alors là j'ai été assez longue, je trouve trop longue sur les règles du jeu, mais c'est plus parce que je voulais pour un peu pour expliquer après le enfin vraiment donner sur l'analyse même. Alors c'est un jeu asymétrique. En fait la symétrie, on a toujours l'impression que c'est extraordinaire. Enfin moi je trouve que c'est vraiment quelque chose, les joueurs et joueuses sont toujours s'extasient beaucoup, on fantasme beaucoup la symétrie. En fait, il y a beaucoup de jeux. Non mais un jour j'écrirai une chronique sur ce sujet, pourquoi on aime autant la symétrie, enfin pourquoi la symétrie nous fait autant rêver. Mais en réalité quand on regarde, il y a énormément de jeux asymétriques. Asymétrique, bah déjà tu as tous les jeux à rôle caché. Et là, on est un petit peu ça, puisqu'il y a une forme de rôle caché. Il y a la symétrie des pouvoirs. C'est un petit peu le cas, puisque en réalité, on n'a pas exactement les mêmes cartes, donc exactement les mêmes pouvoirs. On a tous les jeux de track, ou par exemple, lettre de Whitechapel, ou bien la traque de l'anneau. Ces jeux où tu en as un qui doit se sauver, pendant que les autres essayent de le coincer. Et en fait, je trouve que Pagan ressemble beaucoup à un jeu de track, en réalité. Parce qu'il y a vraiment un jeu de chat et la souris. Il y a vraiment ça. C'est presque pour moi ce qui est le plus évident en ressemblance en termes de ressenti de jeu. T'as aussi beaucoup de jeux asymétriques dans les jeux de cartes. Des jeux où y en a un qui incarne par exemple le gouvernement et l'autre les rebelles. Je pense à Tomorrow auquel on a joué il n'y a pas longtemps. Ouais. On m'a beaucoup aussi parlé d'un jeu auquel je n'ai pas joué qui s'appelle Netrunner de Richard Garfield. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de similitudes entre Pagan et Netrunner. Bon, moi, je n'y ai pas joué, donc je ne
peux pas... Oui, c'est un qui chasse l'autre et l'autre se cache, exactement. Tu as aussi Watergate qui est un peu dans le même style, complètement
tout à fait, exact. Ouais, il y a aussi Star Wars, je pense que c'est Rébellion aussi, où il y en a un, celui où il y en a un qui joue la Résistance et l'autre qui joue l'Empire.
Oui, complètement, Rébellion.
On retrouve vraiment ce genre de choses. Mais en fait, ce que je trouve, c'est que dans Pagan, c'est on a un rôle différent. Ok, on a une condition de victoire qui est différente. Ok, on a des cartes différentes, mais dans le gameplay, on fait exactement la même chose en réalité. Ouais. Et c'est pour ça que je parlais vraiment d'actions qui se répondent en miroir. En fait, à chaque action de la sorcière correspond une action du chasseur, et même à chaque type de carte de la sorcière correspond un type de carte du chasseur. Et c'est vraiment pour ça que d'ailleurs ce n'est pas difficile de passer d'un rôle à l'autre. En revanche, là où la symétrie elle s'exprime énormément, et c'est là ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que on n'a pas du tout l'impression d'être dans le même type de jeu. Dans le rôle de la sorcière, tu es vraiment dans un jeu de bluff. Parce que pour pouvoir bien poser tes faveurs au bon endroit sans te faire dégommer et percer à jour par le chasseur, il va falloir que tu ailles égrener tes faveurs un peu partout en essayant de lancer des fausses pistes. Et t'es vraiment dans du bluff. Alors que le chasseur, lui, il est dans un rôle beaucoup plus direct, beaucoup plus frontal. Lui, il est dans un jeu de déduction. Donc, il va devoir faire au mieux pour éliminer le maximum de villageois pour restreindre en fait le choix des possibles, en fait le villageois qui va être le bon villageois, pour qu'il ne reste plus peut-être que deux ou trois à la fin, et qu'ainsi il puisse vraiment aller être sûr de celui qu'il éliminera en dernier ressort.
Ouais, je trouve que là-dessus il y a un côté faux hasard qui est assez cool, parce que effectivement il y a un deck de cartes qui représente les neuf protagonistes. La sorcière va piocher dedans. Par logique, ce que le chasseur va prendre dedans, il y aura pas la bonne carte, donc il va par déduction, il va se dire ok, tout ce que je pioche, c'est pas les bonnes personnes. Mais du coup, il y a un effet de suivant comment la sorcière a disposé ses pions d'indices, c'est pas indices, mais c'est
secret.
Et toi, la carte en tant que chasseur, les cartes que tu vas piocher, t'as déjà énormément. En fait, tu peux te dire je pioche pas la bonne carte parce que ça m'indique rien. En fait, ça indique tout de suite énormément de trucs. Ça dit tout de suite, est-ce que là, ce personnage est en train de me bluffer parce que je viens de le piocher et en fait, il y a 1000 secrets dessus, mais en fait, c'est un bluff direct. Et du coup, tu vas tout de suite pouvoir rayer plein de choses d'un coup. Et je trouve que cette sensation de découverte, elle est toujours très cool.
Ouais. Et en plus, même pour la sorcière, si elle a essayé de bluffer, qu'elle a posé beaucoup de jetons d'un côté et qu'elle voit que finalement, le chasseur ne s'intéresse pas à ce villageois qui a pourtant déjà deux faveurs sur lui, elle peut se douter que c'est parce qu'il l'a pioché. Donc il y a tout un, il y a plein de degrés en fait de conclusions qu'on peut tirer de ce que fait l'autre tout le temps dans la partie. Ouais. Alors moi, on m'a aussi parlé alors d'un jeu auquel je n'ai pas non plus joué qui s'appelle Villainous, où effectivement on a des personnages différents, exactement comme dans Pagan, on a des decks personnalisés. mais où on joue de la même manière en réalité. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un des jeux qui se rapproche le plus en termes de comparaison.
C'est violent comme comparaison.
Bah, c'est ce que, enfin, après moi c'est ce qu'on m'a, enfin, en discutant sur la façon dont fonctionnait Villainous, hein. Parce que ça reste, tu gagnes pas de la même manière, mais tu fais bien la même chose, parce que dans Pagan on fait la même chose en réalité, hein.
Je vois exactement pourquoi on les compare, mais c'est tellement deux jeux qui sont à l'opposé en termes de sensation de jeu pour moi que je
parle pas de la sensation. Je te parle pas de la sensation de jeu. Je parle vraiment de la façon dont fonctionne la symétrie.
Ouais, effectivement, t'as une asymétrie parce que chacun a son personnage et son deck qui n'est pas.
Dans un jeu comme Root, t'as de la symétrie, mais on joue vraiment. Il y a des actions communes, mais on joue vraiment différemment. Le gameplay est vraiment toujours différent. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont propres, qui fonctionnent différemment. Donc c'est pour dire que c'est pas une asymétrie à la Root ou ce genre de choses. On n'est pas dans de l'asymétrie de gameplay. On est dans de l'asymétrie en termes de sensation de jeu plutôt. Quoi. Ouais. Donc c'est vraiment cette asymétrie-là que moi j'ai trouvé hyper agréable et moi, je l'ai trouvé original. Alors, je prétends pas connaître tous les jeux du monde et avoir la plus grande culture ludique, loin s'en faut. Mais moi, j'ai trouvé cette asymétrie vraiment originale. Le fait qu'on puisse passer d'ailleurs d'un rôle à l'autre sans aucune difficulté, parce qu'on le gameplay est le même. Mais cette sensation de bluff et de déduction qui s'affrontent, ces actions en miroir aussi, que j'ai trouvé hyper intéressante, parce que de fait, on comprend les actions de l'autre parce qu'elles existent chez nous. Et ça permet d'avoir une... Et je pense que par rapport au jeu, on a vraiment une meilleure compréhension de ce que fait l'autre parce qu'on a les mêmes actions, en fait, en face. Et on voit exactement s'il fait telle action, pourquoi il le fait. En fait, on a cette connaissance presque intrinsèque liée au miroir que propose le jeu, quoi. Et... Alors, on peut être aussi un peu tributaire de la pioche, hein. C'est vrai que les decks sont assez importants et on pioche pas tant que ça dans le jeu. Finalement.
Non, clairement, ouais.
Non, pas.
J'ai l'impression, c'est ma grosse déception, c'est que, en fait, au début du jeu, ils te disent, faites une mise en place classique avec toutes les cartes. T'as une version rapide du jeu où ils te disent de virer, si t'as envie de jouer en 40 minutes, je crois, ou un truc comme ça, tu peux virer certaines cartes et faire un deck genre de 30 cartes au lieu de 60. Mais en fait, j'ai pas la sensation de piocher 30 cartes dans
pas
le jeu
du
déjà.
Tout, non.
Donc c'est un peu bizarre.
Non, non, moi je trouve qu'au bout d'un moment, c'est pas si facile que ça de piocher. De toute façon, jouer des cartes, ça coûte. Enfin, tout est assez étendu. Et en vrai, comme le cœur de ton... tu vas voir les villageois aussi pour les actions qui te permettent de faire, parce que ça te permet de faire deux choses en une. Mais en fait, au bout d'un moment, tu vas aussi les voir pour pouvoir distribuer tes jetons ou pour convertir. Donc, au début, tu le fais vraiment beaucoup pour les actions qui t'offrent. Et puis, de moins en moins, tu le fais pour ça. Donc, de toute façon, tu finis par te résigner un peu sur la pioche de cartes. Enfin, à mon sens, hein, mais c'est vraiment plus...
Je trouve que la sorcière a plus d'intérêt à aller piocher parce que les potions l'aident vraiment à accélérer son jeu, dans le sens poser des secrets ou gêner l'adversaire ou ainsi de suite, alors que le chasseur, j'ai pas la sensation que avoir beaucoup de cartes en main te gêne parce que t'as des cartes très fortes très vite. Et c'est la sensation que j'ai, hein, mais je
comprends. Ouais. Après, ce qui est sûr, c'est que par exemple, comme il y a des choses qui sont plus ou moins fortes, les cartes en quête, si t'as pas de pour pouvoir les virer, par exemple, les cartes en quête qui te contraignent en tant que sorcière, pour les virer, il faut que tu pioches des cartes qui te permettent de les virer. Là, tu peux avoir un sentiment d'être. Un petit sentiment de frustration parce que t'as pas la carte qui te permet de dégager les cartes en quête et que tu vas devoir faire autrement pour t'en sortir. Bon. Mais moi, ce que je trouve fort, c'est cette asymétrie qui existe, mais qui n'est pas l'asymétrie à laquelle on pense immédiatement. En tout cas, on pourrait croire qu'on a une asymétrie de gameplay. Or, pour moi, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est mon sentiment et mon analyse. Pour moi, c'est vraiment le type de jeu auquel on joue qui est différent. Un jeu de bluff versus un jeu de déduction. Et d'ailleurs, je trouve que ça correspond bien au rôle qu'on incarne, puisque finalement, le chasseur est très direct, hein. Il est vraiment, enfin, il a un mode de jeu beaucoup plus direct et peut-être plus facile quand on n'a jamais joué à comprendre. Et là, alors que la sorcière, elle va vraiment beaucoup passer en tant que sorcière, on passe par beaucoup d'étapes, beaucoup de circonvolutions avant d'arriver à son objectif. Et qui correspond beaucoup plus à l'idée du bluff.
Je suis assez d'accord.
Voilà. En termes de ressenti de jeu, et un peu la dramaturgie que t'offre le jeu dans ses sensations, c'est vraiment un jeu dans lequel t'es extrêmement tendu de toute la partie. Il faut tenir, hein, c'est une heure de partie environ, et t'es une heure vraiment, vraiment, vraiment tendu. Alors bien sûr, le premier tour, ça va, mais progressivement, tu es très, vraiment très dans l'immersion de ce que tu fais. Il y a énormément de rebondissements, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas du tout linéaire, la façon dont se passent les parties. Il peut y avoir d'énormes rebondissements, des choses qui se produisent alors que tu t'y attendais pas. Quand on te vire une faveur et que c'est pas forcément celle que t'attendais, ou il y a plein de choses, plein de sensations, des moments d'inquiétude. Enfin, t'as vraiment beaucoup de sentiments très forts qui peuvent survenir. Et je trouve que l'interaction est très forte sans être directe, en fait, par rapport à d'autres jeux, parce que c'est pas du tout un jeu d'affrontement pour moi. Du tout les ressentis d'un jeu d'affrontement, et pourtant t'as une interaction qui est ultra forte, parce que tout ce que tu fais, tu vas le faire en fonction de ce que l'autre a fait avant. D'abord parce qu'il te bloque des emplacements, mais aussi parce que toutes les cartes qui jouent, elles sont vraiment destinées. Donc tu vas toujours te demander si tu vas faire les actions pour toi ou pour limiter ce qu'il a fait au tour d'avant. Donc t'es beaucoup dans cette hésitation permanente entre est-ce que je fais ce qui m'arrange le plus ou est-ce que je fais ce qui va plus le déranger lui. Mais t'es pas dans de l'affrontement classique, pas du tout. T'as pas cette sensation vraiment du jeu type Mindbug que t'évoquais juste avant. Vraiment.
Ouais, tu vas pas taper l'adversaire, tu vas faire des choses pour le gêner.
Exactement.
Et je trouve ça ultra intéressant parce que même dans le jeu, t'as des sensations. On parlait d'action de la loose par exemple, de virer l'adversaire ou tout comme ça. Et en vrai, chaque action, même si t'as pas l'impression que ça te fait avancer dans le jeu, est ultra importante pour ta tactique de jeu, ta sensation de jeu et pour ta victoire. L'exemple, c'est le chasseur, il a un nombre d'indices qui est limité. Oui. Et en fait, au bout d'un moment, chaque fois que tu vas voir un villageois ou une villageoise, tu vas distribuer ces indices-là. Au bout d'un moment, tu n'en as plus assez pour faire d'autres choses avec. Parce que ça permet aussi de poser sur tes alliés, ça permet aussi de poser sur tes bâtiments.
Ce qui fait que tu vas avoir intérêt parfois à faire une autre action pour récupérer des jetons pour mieux les placer plus tard, quoi.
Ouais, et en fait, cette action, t'as l'impression que c'est vraiment en mode « Oh putain, je perds du temps à faire ça ». Mais en fait, non, elle est super importante. Et si tu la fais pas maintenant, à un bon timing de jeu, et c'est là où le jeu, il prend énormément d'importance, c'est trouver le bon timing de se dire « Ok, en vrai, la sorcière, elle a posé ses jetons là où je devais aller. Ok, bah, je vais faire d'autres actions, ça va m'avancer et en fait, je vais gagner un temps d'avance sur la sorcière au tour d'après. »
Et c'est pour ça aussi que si tu n'utilises pas bien si tu y a une action que tu perds, enfin que tu passes à faire un peu inutile, tu le payes vraiment cash. Après, moi j'ai trouvé qu'au niveau du sentiment de jeu, donc il y a ce bluff, cette déduction, ça c'est vraiment le type de jeu finalement que tu joues. Mais le sentiment que t'as, c'est vraiment le sentiment du jeu de track, hein, vraiment vraiment. Mais totalement, qui est restitué, la sensation, t'as vraiment, quand t'es sorcière, t'as vraiment le sentiment d'être traqué, et quand t'es le chasseur, t'as vraiment le sentiment de traquer l'autre. Et pourtant, ce n'est pas du tout restitué comme on le reste avec les jeux de track classiques qu'on connaît, que je citais comme Track de l'Anneau, L'aide de Whitechapel, Mystère de Whitehall, ou même Scotland Yard. T'es pas du tout, t'as vraiment, ça fonctionne tellement différemment que quand on te le dit, c'est pas du tout évident que c'est ça. Et pourtant, en termes du sentiment de ce que toi tu ressens vraiment la track qui est très puissante, très violente et très forte en fait. Hein. T'as vraiment l'idée que tu vas te faire découvrir, que tu t'es fait percer à jour, donc t'es beaucoup dans la supposition de ce que pense l'autre. Est-ce qu'il sait que je sais? Est-ce qu'il sait qu'en fait ce villageois là c'est du bluff? C'est très 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 bien restitué. Et je trouve ça, c'est ça qui est assez original dans le jeu, c'est que t'as ces sentiments de track, mais avec un type de jeu très différent. Voilà.
Ouais, je suis d'accord. Complètement.
Ça, c'était sur moi, mon ressenti. Ensuite, ce qui fonctionne aussi très bien dans le jeu, et je pense que ça participe beaucoup au plaisir, c'est la façon dont le jeu a été thématisé. Alors, le thème de la sorcière ou de la sorcellerie, c'est pas un thème en soi qui est original, hein. Mais je trouve que c'est le traitement ici qui l'est. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le thème de la sorcellerie, on a beaucoup de jeux, par exemple, à rôle caché, type loup-garou-like, où on a avec la recherche d'une sorcière. On a aussi tout un tas de jeux pour enfants avec des sorcières. On a plein de jeux un peu rigolos avec des sorcières. Les charlatans de Belcastel, par exemple. Il y a plein de jeux qui utilisent le thème de la sorcellerie. Ou même des jeux un peu comme dans The Witcher, où t'as dans le jeu The Witcher, où t'as des sorcières et tout. Tu vas retrouver ces éléments-là, l'idée de la chasse à la sorcière. Mais là, on est dans une chasse à la sorcière qui est traitée de façon réaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc un peu original ou magique ou médiéval fantastique. On est dans un traitement réaliste un peu historique, puisque le thème du jeu, en fait, c'est la colonie de Roanoke. Donc C'est en 1587 une colonie anglaise qui avait été établie sur une île, l'île de Roanoke, donc en Caroline du Nord. Mais lorsque, en fait, ils avaient plus personne n'avait de nouvelles d'eux, et lorsque les secours sont arrivés, la colonie, ils avaient purement et simplement disparu. Et il y avait un seul indice, c'était un mot qui était gravé sur un arbre, qui s'appelait, donc le mot c'était Croatoan. Et Croatoan, c'était le nom d'une île voisine. Sur laquelle vivaient des Amérindiens avec lesquels les colons avaient établi des liens amicaux. Personne ne sait où sont passés ces colons. Il y a eu quelques théories un peu fantaisistes qui parlaient de sorcellerie, etc. Mais il n'y a pas du tout de preuves concrètes pour étayer la théorie. Bien sûr, on pense souvent en sorcellerie, on pense au procès des sorcières de Salem, mais qui sont survenus plus tard. Mais je pense que le fait de l'impliquer dans une époque réaliste, une sorcellerie réaliste, ça c'est un thème qui est plus original et qui fonctionne très bien avec ce que l'on fait dans le jeu. Finalement, avec la façon dont ça fonctionne dans le jeu. Le visuel du jeu est très particulier aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé assez marqué. Alors, on a beaucoup évoqué... l'illustratrice, c'est Maren Guth, qui est l'illustratrice allemande qui travaille pour Wyrmgold. Si vous allez voir ce qu'elle fait par ailleurs... ça n'a aucun rapport avec ce qu'on voit sur la boîte de Pagan. Moi, je trouve que ça ressemble pas du tout.
Ouais, il y a un gros effet Darkest Dungeon qui fonctionne très bien, un peu animé, un peu jeu vidéo.
Ouais, ça fonctionne, ouais, ça ressemble beaucoup, c'est souvent ce qui en ressort, c'est l'impression qu'on a quand on voit la couverture, les cartes, les personnages, beaucoup les visuels, assez sombre quand même, c'est assez dark, il y a un petit côté dark et tout. Le personnage, et puis il y a le personnage du chasseur par exemple aussi fait penser beaucoup à la façon dont on se représente le personnage de Solomon Kane.
Oui, complètement.
Ouais. C'est très inspiré, je pense, sur le visuel. L'édition, moi, j'ai trouvé l'édition très réussie. En fait, les cartes sont belles, les jetons sont jolis. Il y a vraiment un soin qui a été apporté. Et dans les règles, il y a aussi quelque chose que j'ai relevé qui était assez intéressant, c'est qu'il y a un warning. Je ne sais pas si tu l'as lu ou pas.
Je me souviens de le voir, mais je ne me souviens pas de ce qu'il dit, donc je ne l'ai sûrement pas lu.
Donc en fait, il y a une note de l'éditeur qui dit bien que il signale que ce jeu ne saurait faire l'apologie de la violence envers autrui, qu'il s'agisse d'un villageois, d'une sorcière ou d'un animal. Il s'agit d'une œuvre de fiction qui en aucun cas ne vise à apporter préjudice à une quelconque personnalité historique, religion ou ethnie.
Oui, c'est pour.
J'ai lu des gens qui se plaignaient de ce genre de, en disant que ça n'avait pas de sens, que c'était ridicule, que ça n'avait. Bien sûr, on savait que c'était un jeu, bien sûr.
Ah bah ils lisent pas les warnings et ils passent à autre chose.
Bah voilà, donc déjà t'es pas obligé de le lire. T'as le droit de t'en foutre, mais ça t'enlève rien que ça y soit. Et moi, je trouve pas ça du tout. Moi, je trouve ça pas du tout ridicule, et je trouve pas ça non plus anodin. Les chasses aux sorcières, c'est quelque chose qui a vraiment existé, puis qui existe encore en réalité aujourd'hui, sauf que peut-être qu'on le voit moins, et c'est pas exactement la même façon dont ça fonctionne. Mais la chasse aux sorcières, ça a causé la mort de beaucoup de personnes qui étaient totalement innocentes. Et je trouve que c'est juste aussi une manière de rappeler, c'est que dans les jeux, on fait beaucoup de choses violentes parfois parce que sous prétexte que c'est un jeu, on veut pas y penser. Moi, je pense que c'est pas inutile de rappeler que ça n'est qu'un jeu. Et moi, je trouve ça toujours bien de le dire, en tout cas bien de le préciser.
Oh, je suis complètement d'accord.
Ça n'enlève rien à personne, ça n'altère pas ton plaisir de jeu. Comme tu dis, si t'as pas envie, tu le lis pas. Et si ça fait du bien à certaines personnes de le lire, c'est très bien. Voilà.
Ouais, donc, complètement. J'aime bien le côté thématisation et ça revient un peu ça à espèce d'hypocrisie qu'il y a sur chasse aux sorcières et le fait que tout le monde a envie de chasser une sorcière ou traite les gens de sorcières dans le sens négativement.
Oui.
Alors qu'en fait, dans le jeu, tout ce que tu fais, c'est apporter des faveurs aux villageois qui vont eux te dénoncer quand ils ont besoin de le faire. T'as un effet en fait très réaliste de l'histoire là-dessus.
Oui.
Et je trouve ça assez intéressant qu'ils aient gardé ce thème-là justement en fait. La sorcière garde le secret des villageois, leur rend des faveurs et c'est ça qui lui permet elle d'avancer dans sa quête. C'est assez
marrant. Qu'en fait le personnage de la sorcière n'est pas un personnage maléfique dans le jeu du tout. Et je pense que c'est peut-être bien plus réaliste avec ce qui s'est passé parce que beaucoup de personnes femmes qui étaient accusées de sorcellerie étaient souvent des personnes qui soignaient par exemple ou qui avaient d'ailleurs des fonctions dans les villages très importantes. Je trouve que les warnings comme ça, c'est, il y en a de plus en plus dans les jeux. Moi, je trouve ça pas du tout inutile. Je trouve ça bien de réfléchir aussi sur les thèmes qu'on propose. En fait, en dehors de ça, le choix d'un thème pour un jeu, il est pas anodin. il est issu de tout un background culturel qu'on a tous, et aussi bien sûr de choses communes. Et je pense que c'est toujours bien de réfléchir à pourquoi ces thèmes-là, on a choisi de les réutiliser, comment on les réutilise, et de bien préciser aussi dans quel cadre ça s'inscrit, et dans le cadre d'un jeu. Et aussi ça invite les personnes, enfin les joueurs et joueuses parfois, à s'intéresser, à aller un petit peu plus loin que simplement le jeu. Tu vois, moi ça m'a permis d'aller, j'ai fait des recherches sur Roanoke, etc., que je ne connaissais pas l'histoire de cette colonie. Donc moi je trouve ça toujours bien aussi de remettre en perspective, dans une perspective historique, les thèmes qu'on utilise.
Ouais, complètement, c'est intéressant. Si ça permet de t'intéresser à l'histoire et de plonger un peu plus dans le truc pour savoir ce que c'était exactement, c'est toujours très cool.
Après, alors il y a des extensions, il y a une extension qui vient juste de sortir, hein, c'est Par-delà les palissades. Ouais. Et qui va rajouter, je crois, des nouvelles ressources. Donc moi, je n'y ai pas encore joué. Je l'ai commandé, donc je l'attends de pied
ferme.
Moi,
je l'ai déjà. Enfin, je l'avais commandé avec tout un tas de choses. je m'étais pas. En fait, mais il y a beaucoup d'extensions déjà, en fait.
Il y a plus d'extensions. Oui, il y en a une autre qui s'appelle Procédant Temps, ouais. Apparemment.
En fait, il y a des grosses et des petites extensions. Il y a effectivement le Fer et le Feu, les Jeux de l'Esprit. Et Procédant Temps, qui sont des petites extensions qui vont apporter pas grand chose, quelques cartes, et il y a effectivement Au-delà des palissades, qui est une grosse extension en type boîte, qui vont rajouter
des ressources,
le marais, d'autres choses, et d'autres cartes pour jouer.
Je crois des endroits en dehors du village, ouais, en fait. des lieux dehors du village. Ouais.
Ça rajoute le poison et ainsi de suite. J'avoue que quand j'ai commandé Pagan de base, j'avais voulu prendre toutes les extensions d'un coup. Je me suis calmé, je me dis ok, on va arrêter de vouloir tout prendre. J'ai juste pris Au-delà des palissades, j'avais commandé le playmate et les tokens, qui sont magnifiques.
Ouais, le playmat est très bien aussi, ouais, vraiment très cool.
Ah, je trouve que jouer sans le playmat, ça, je trouve que ça change beaucoup la sensation de jeu, mais c'est personnel, quoi. C'est vraiment... mais très beau, ouais.
Donc après, pour conclure, vous l'avez compris, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. À chaque fois, je lis pas mal d'avis qui disent, oui, il y a beaucoup de stratégies, c'est ça qui est le truc. Alors, moi, je trouve que c'est pas tant les stratégies qui est intéressant, parce qu'en vrai, c'est vraiment la sensation de jeu, cette sensation de tension intense que l'on ressent, cette sensation de trac qui est très puissante, tout en n'étant pas dans de l'affrontement classique pour un jeu à deux joueuses. Au-delà, oui, bien sûr, je pense que la stratégie ou rejouabilité, parce qu'il y a beaucoup de cartes et tout et que tu peux changer de villageoise, c'est des faux arguments pour dire que le jeu est bien. En vrai, le jeu est bien parce qu'il procure vraiment une sensation que j'ai trouvée nouvelle, cette sensation de trac, juste avec ce système d'échange de jetons, de placer ces jetons, que j'ai trouvé vraiment vraiment fort, et le fait que qu'on ait ces sensations de jouer à des jeux un peu différents tout en pouvant passer d'un rôle à l'autre sans problème. Effectivement, le jeu sera peut-être pas forcément évident pour des novices, quoique je pense que c'est vraiment la première partie qui est peut-être un peu pas complexe, mais qui, voilà, une fois qu'on a fait une partie, c'est assez facile de s'y remettre. Et pour le coup, la façon dont c'est présenté, l'aide de jeu est vraiment super bien faite. Et pour savoir ce qu'on va faire comme action, c'est assez vite, on prend vite le pli. Même l'iconographie, elle est pas compliquée du tout. Donc, je trouve que ça participe vraiment en faire un très bon jeu à deux joueuses. Peut-être un peu gamer, enfin si on peut dire ça comme ça, je suis pas forcément fan de cette façon de l'envisager, mais si vous aimez avoir des fortes sensations mais très intériorisées, le jeu en procure vraiment.
Ouais, il faut je le trouve assez difficile à prendre en main, parce que même si les actions sont simples, il y a quand même toute une compréhension de ce que tu dois faire et de comment tu dois gagner qui est forte. Et je trouve que ça, c'est pas facile à faire comprendre rapidement.
Ah oui, non, sur la première partie, sur la première partie, c'est compliqué, oui.
Ouais, la première partie, elle fait partie de ces genres de jeux où la première partie est toujours foirée, parce que même de la façon de gagner est pas très claire et tu l'as pas en tête tout le temps. Enfin, on te l'explique au début du jeu, et comme tu l'as pas en tête à la fin du jeu, en fait, ça va foirer, parce que si t'es en train de vérifier à un moment comment tu vas gagner, ça veut dire que tu indiques à l'autre que tu es en train de gagner, et donc du coup ça dévoile un peu le jeu. Et si tu l'as pas bien en tête, ça veut dire que du coup tu vas mal le faire. Et moi c'est le cas de ma première partie. La personne avec qui je jouais, en fait, pense faire son move et gagner. Et en fait je lui dis non, en fait il te faut deux pions pour le faire, un pour faire l'action et deux pour placer ton pion. Et en fait du coup c'est fini, t'as perdu le tour d'après. Moi je sais quitter parce que tu viens de me dévoiler. Et en fait. T'as tout un effet un peu foiré là-dessus, qui est dommage, quoi.
Pour la petite anecdote, la première fois que moi j'y ai joué, c'était Tyson avec toi.
Ouais, on n'a pas joué, hein, vraiment.
On n'a pas fait la partie en entier. Elle nous a été expliquée, donc on était à Essen en anglais, avec tout le jeu était en anglais, par les auteurs du jeu.
Ouais.
Et ils nous ont expliqué tout. C'était en fin de journée, donc on savait que de toute façon, on n'aurait pas le temps de faire la partie complète. On a dû faire 3-4 tours. Et je me souviens qu'après avoir expliqué le jeu, on s'est regardé. Et moi, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais je n'ai pas compris ce que je devais faire, quoi. Mais vraiment
ouais, ouais.
Pas du tout.
En fait, tes premières actions, elles sont toujours délicates parce que je ne sais pas ce que je dois faire. Et en fait, tu dis, est-ce que piocher, c'est intéressant? Est-ce que jouer une carte, c'est intéressant? Est-ce que je dois gagner de l'influence? Et en vrai, ça demande. La première partie, elle est très, très mauvaise, quoi qu'il arrive.
Ouais, voilà, c'est ça. Il faut passer ce stade-là et après ça, enfin, mais bon, même les premiers tours, après ça va mieux en général, mais oui, ça demande peut-être effectivement, c'est un jeu qui va pour le coup, il n'y a pas une prise en main qui est facile si c'est un critère pour jouer. C'est pour ça que beaucoup disent que ça s'adresse quand même à des gens qui ont l'habitude de jouer parce que forcément t'as peut-être plus l'habitude de voir les directions et de comprendre l'équilibre général du jeu. Mais vraiment, enfin, pour moi, c'est une de mes meilleures découvertes pour l'année. Enfin, il est sorti en 2023 en français. Donc, si je devais, voilà, je le considérerais même si j'ai joué à Essen en 2022. Dans mes jeux de 2023, c'est une de mes meilleures expériences ludiques depuis le début de l'année.
Ah, moi, je le trouve assez cool. C'est un jeu que j'attendais énormément parce qu'on en a beaucoup parlé en 2022 sur, on me l'a présenté entre guillemets en disant ça c'est une tuerie, il faut trop que tu testes, ainsi de suite, et du coup je l'ai énormément attendu et c'est cool parce que l'attente que j'ai mis dedans n'a pas été déceptive quand je l'ai enfin pris en main et enfin j'ai enfin fait ma première partie, quoi.
Bah exactement, parce que moi je sais que quand j'ai beaucoup d'attente dans un jeu, souvent j'ai une forte déception et inversement, et là pas du tout, ça n'a pas du tout été le cas. Vraiment, sur le peu qu'on avait joué à Essen, j'avais trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et en pouvant y jouer en français et sur des parties complètes et en faire plusieurs, avec en plus des personnes qui avaient le même niveau, enfin des partenaires de jeu qui étaient les mêmes, donc ça permet de progresser ensemble. Vraiment, aucune déception, quoi.
Ouais, clairement. Je lui reproche juste le truc de dire c'est il faut un peu plus d'une heure pour jouer parce que du coup ça te prend du temps, quoi. C'est ça, il faut trouver du coup le temps de le caler, mais vraiment super jeu, aucune déception. J'ai même peur de rajouter l'extension en fait dedans pour me dire c'est ce genre de jeu où j'ai peur de rajouter l'extension parce que j'ai peur que ça casse ou ça déséquilibre
que ça déséquilibre le jeu, ouais. Et puis que ça ouais,
mais
à voir,
hein. complètement fan.
Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, moi, j'ai fait le tour pour mon jeu.
Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxyjeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. Proxy-jeu, bien sûr, vous le savez, tiré du 6, comme on le dit dans les Startup Nation. Vous pouvez y trouver toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, Discord, et surtout parler de nous autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale enregistrée lors du week-end Proxy Jeux. Et le mois prochain, c'est a priori les vacances pour certaines personnes, je ne sais pas qui, mais pas moi.
Ben non, c'est les vacances de Proxy Jeux. Enfin, je veux dire, on sera en juillet, il n'y aura plus d'émissions pendant 2 mois.
Oh là 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 là. Comment vous allez
faire ? Il y aura des émissions quand même, on vous rassure, mais il n'y aura pas les jeux du mois de juillet.
Vous allez mourir sans nous pendant les vacances.
Non, non, il y aura des trucs, on vous rassure.
Mais du coup, est-ce que ce sont les vacances de Proxy Jeux dans le sens « Oh là là, c'est nos vacances, on est cool parce qu'on fait rien » ou est-ce que ce sont les vacances des auditeurs dans le sens « Oh là là, c'est bon, on arrête de les écouter, c'est cool pendant quelques temps, quoi. »
Écoute, bah ça, alors là, je te laisse.
Vous avez deux mois, vous avez deux mois pour répondre
propos,
à cette question,
hein.
Sur Discord.
Il faut laisser des commentaires, hein. Pour nous le dire.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On se retrouvera donc à la rentrée pour un nouvel épisode des Jeux du Mois avec un nouveau duo absolument sublime, mais pourtant moins intéressant que nous deux. Donc,
forcément, voilà. Forcément.
Je suis désolé pour les personnes qui reprendront cette suite en attendant.
Jouez bien.